Si vous souhaitez tout savoir sur votre année de naissance, retrouvez-nous pour quelques émissions sur les années anniversaires commentées par Jean Saraméa, historien géographe retraité. Joyeux anniversaire à tous ceux qui ont 20, 30, 40, 50, 60 ans et plus en cette année 2022. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral, nous avons le plaisir de retrouver Jean Saraméa. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous, et on va souhaiter un bon centenaire à celles et ceux qui ont déjà ou vont avoir 100 ans en 2022. Alors, il y a un siècle, on en entend parler lors de différentes émissions, radio, télévision, c'est logique. Bon, c'est catalogué année folle, encore une fois. Cela n'a pas été appelé ainsi en 1922, mais pendant les années 30. Pendant les années 30, il y avait la crise économique, il y avait la crainte du clérisme montant. Donc, il y a un an quand même, on n'avait pas ces soucis ni tant d'inquiétudes. Donc, on a dit, à Paris, on s'amusait, mais c'était un milieu extrêmement restreint qui avait les moyens de faire des surprise parties. Plus ou moins déguisé le soir. Donc c'était extrêmement réduit, le public des années folles. Néanmoins, bon. Alors, sur le plan international, on est toujours dans le contre-coup de la Première Guerre mondiale. Même si la Cour internationale de justice s'installe à La Haye, et elle l'est toujours, même si le traité de Washington de les armements sur mer, ce qui d'ailleurs est très mal ressenti par la France, qui est reléguée au niveau de l'Italie, au niveau des capacités navales. Bon, même si l'Angleterre arrête un protectorat sévère sur l'Égypte et met en place une dynastie royale avec le roi Fouad à cette époque. Bon, en réalité, le monde est loin d'être tranquille. C'est la fin de la guerre civile en Union soviétique et d'une terrible famine. C'est la mise en place du DPU, c'est-à-dire d'une police politique qui va être extrêmement sévère, même si ce n'est pas très connu en dehors du pays. En 1922, Staline devient le chef, on dit le premier secrétaire localement, du Parti communiste. La conférence internationale de Cannes puis de Gênes n'arrive pas vraiment à coordonner les espoirs et les réalités sur les réparations allemandes, et la monnaie allemande entame une terrible inflation qui sera de plus en plus forte en 23. L'Irlande obtient son indépendance, mais dans le sang, en définitive. Les problèmes sont loin d'être réglés avec le Royaume-Uni. Et puis, au mois d'octobre, le roi d'Italie, Victor Emmanuel, appelle Mussolini comme premier ministre, alors que le parti fasciste n'a que 2 ou 3 élus aux élections législatives. Et bon, une grande partie de l'opinion italienne se dit autant appeler Mussolini, il va voir les réalités et puis on le contrôlera, évidemment, on ne connaît pas l'avenir. Bon, en France, eh bien c'est le président Mitterrand, qu'on a peut-être oublié, le gouvernement Aristide Briand, puis Raymond Poincaré. C'est un moment relativement tranquille, mais l'inflation est forte, c'est toujours le contre-coup de la Première Guerre mondiale, et surtout, le budget de l'État est de plus en plus déséquilibré parce que on met dans les recettes les réparations que l'Allemagne est censée payer. Or, ce n'est pas encore internationalement organisé. Donc, on construit des barrages, on reconstruit le nord et une partie du nord-est qui ont été gravement endommagées. Mais il n'y a pas les moyens financiers correspondants, ce qui fait que la monnaie, le franc, décroche par rapport aux monnaies beaucoup plus stables, que ce soit le franc suisse, la livre sterling ou le dollar. Bon, au niveau des récompenses, le prix Nobel est remis à Einstein. Au niveau sportif, ce sont les premiers Jeux Olympiques féminins, même si ce n'est pas officiel, mais tout de même, ça marque dans l'histoire. Le célèbre boxeur Carpentier devient champion du monde, et Suzanne Lenglen, qui est toujours connue par le nom qui est porté, son nom est porté par un des grands cours de tennis, Suzanne Lenglen devient championne incontestée du tennis féminin à l'échelon mondial. Le Tour de France est gagné par Firmin Lambeau. On a bien oublié ces lointains vainqueurs du Tour de France. À l'époque, le Tour de France était un vrai Tour de France, c'est-à-dire que ça suivait peu ou prou les frontières, et c'était vraiment le tour de l'Hexagone, puisque en 1922, l'Alsace et la Moselle sont à niveau française. Au niveau culturel, eh bien, Murnau fait connaître son film Nosferatu. Rappelons que ce sont des films muets à l'époque. Hein. Fritz Lang sort le docteur Mabuse. Charlot, crée Un jour de paye. Autrement, Victor Marguerite écrit un célèbre roman, La Garçonne. Une façon d'écrire, toujours dans un microcosme parisien, le fait que certaines femmes se font couper les cheveux beaucoup plus courts et s'habillent différemment d'avant. Voilà, le prix Goncourt revient à Henri Béraud. L'économiste anglais John Maynard Keynes analyse les problèmes économiques de la paix et de façon assez franche. Autrement, le peintre Chagall se fixe en France cette année-là et il y a une grande exposition à Paris du peintre des Géricault ou des Géricault. Voilà. L'écrivain britannique Galloway Fay écrit La dynastie des Forsyth. Et l'écrivain américain Sinclair Lewis écrit un roman qui va être très connu, Babbitt. Quelques naissances de personnes qui vont être connues. Raymond DeVos, l'écrivaine Jeanne Bourrin, Jean-Marie Domenac, Alain Robbe-Grillet, toujours dans la littérature. Dans le domaine politique, Maurice Faure, Michel Poniatowski, Roland Dumas. Dans le domaine du cinéma, Frédéric Rossi, Pier Paolo Pasolini, Sophie Desmarais, Judy Garland, Micheline Prel, Michel Auclair. Dans d'autres domaines, Serge Reggiani, Yanis Zenakis, Mouloudji et le couturier Pierre Cardin, sans oublier l'immense acteur et dramaturge Gérard Philippe. Disparaissent cette année-là le pape Benoît XV, qui va être remplacé par Pie XI, le poète Bataille, l'homme politique qui a été pendant quelques mois président de la République, Paul Deschanel, l'ingénieur et créateur d'un empire économique belge, Ernest Solvay, Graham Bell, qui avait inventé le téléphone, l'ancien homme politique français d'extrême gauche Jules Guesde, et Marcel Proust. Alors, au niveau des chansons, c'est J'ai deux amants, c'est Nuit de Chine, Nuit câline, et ce sont deux opérettes en 21-22 qui vont vraiment être jouées dans toute la France, parce que il n'y a pas que Paris au niveau de l'opérette, il y a quasiment tous les chefs-lieux de département, même les sous-préfectures qui ont un petit théâtre, petit au sens de place, bien sûr. Et même si la radio existe déjà, Radio Tour Eiffel, depuis 1920, mais enfin très peu de personnes peuvent se payer un poste de radio, mais les gens vont massivement, même les catégories très populaires vont écouter ces opérettes. Alors, c'est Maurice Yvain qui compose Tabouche d'abord, Et puis ensuite, cette opérette qui se passe au paradis avec des airs très amusants, mais le public se tord de rire et en fredonne dans toute la France. C'est le duo des terres et des coupons. C'est si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. C'est non, non, jamais les hommes ne sauront ce que nous sommes. Il y a des airs quasiment féministes au sens moderne. C'est de mon temps, on n'était pas pressé, on faisait l'amour autrement, etc. Donc c'est, puis alors bon, ce sont les noms des personnes principales. Un des acteurs s'appelle Monsieur Dupas de Vis. Voilà, donc c'est pour faire rire le public. Alors, qu'allons-nous écouter? Oh, c'est de l'opérette là-haut. Moi, j'ai fait ça machinalement. Vraiment, ça a fait rire toute la France. Tout comme les airs Aime-moi, Emma, ou Hosanna, Hosanna, Anna, le prénom, bien sûr, mais bon, les gens comprenaient les jeux de mots. Voilà, donc ces opérettes, j'ai entendu dire que ce soit surtout là-haut, qui était un peu plus dynamique, va être rejoué ce printemps en France pour le centenaire et donner un petit peu d'optimisme et de sourire dans une époque qui en a peut-être bien besoin. Voilà, eh bien à bientôt.
Merci beaucoup.
Dans.
Où sont les lavabos? Là-haut. Y a-t-il le gaz et l'eau là-haut? Avec vos flocons moelleux, franchement dites moelleux, j'ai bien peur que ce ne soit humide un peu. Est-ce qu'on se lève tôt là-haut? Ah, quand reçoit-on les journaux là-haut? Entend-on le métro, les tramways, les autos? A-t-on le vrai repos là-haut?
Mais c'est d'une science.